Quand Jason Jones avait 14 ans, sa famille était allée au zoo. Lui-même était trop vieux et trop cynique pour ce genre de sortie, mais sa petite sœur, Jenny, avait une passion pour toutes les bêtes à poil et il avait donc accepté pour lui faire plaisir. Il aurait pratiquement fait n'importe quoi pour faire plaisir à Jenny, ce dont sa mère s'empressait de tirer parti. Ils avaient fait un tour, observé des lions endormis, des ours polaires endormis, des éléphants endormis. Vraiment, se disait Jason, combien d'animaux endormis faut-il voir? Ils firent l'impasse sans commentaire sur le pavillon des insectes, mais pénétrèrent dans la galerie des reptiles. À 10 ans, Jenny n'aimait pas franchement les serpents, mais elle aimait encore pousser des petits cris en les regardant, donc ça avait un certain sens. Malheureusement, un cache dissimulait la vedette de la galerie, le python moulure albinos, et une pancarte indiquait « Parti déjeuner, toutes mes excuses, poli le python ». Jenny avait ri et trouvé la blague assez drôle. Jason n'avait rien regretté parce qu'il lui semblait qu'un python n'aurait été qu'un animal endormi de plus, et il avait donc emboîté le pas à sa sœur et à son père qui les conduisaient vers la sortie. Mais au dernier moment, il avait jeté un coup d'œil en arrière et s'était aperçu que le carton ne recouvrait pas tout à fait la vitre. Sous cet angle, il pouvait voir à l'intérieur. Et Polly n'était pas partie déjeuner. Polly prenait son petit déjeuner. Et un très mignon petit déjeuner qui plus est, qui se débattait au sol pendant que l'énorme serpent se décrochait la mâchoire et commençait, lent et laborieux processus, à aspirer le lièvre dans ses gros anneaux jaunes. Les jambes de Jason s'étaient immobilisées d'elles-mêmes. Il était resté là une minute entière, peut-être deux, incapable de détourner le regard pendant que, centimètre après centimètre, le corps brun duveteux tout juste asphyxié disparaissait dans le gosier luisant du serpent. Il avait alors songé, en regardant le lapin mort, « Je sais exactement ce que tu ressens. » Puis son père lui avait touché le bras et Jason l'avait suivi vers la porte pour ressortir dans la fournaise de l'été georgien. Son père avait passé le reste de la journée à l'observer, en guettant des signes de quoi ? De psychose, de dépression nerveuse imminente, d'accès de violence. Cela ne se produisit pas. Cela ne se produisit jamais. Jason traversait chaque journée comme il avait traversé la précédente, péniblement, un pas après l'autre, un moment après l'autre. Garçonnet chétif et anormalement petit, qui n'avait pour seule arme que son regard perdu. Jusqu'au jour où il avait eu 18 ans et où il était entré en possession de l'héritage de Rita. Ses parents lui avaient-ils organisé une fête ? Jenny lui avait-elle acheté un cadeau ? Jamais il ne le saurait. Parce qu'au matin de son 18e anniversaire, Jason était allé droit à la banque, avait retiré 2,3 millions de dollars et s'était volatilisé. Une fois déjà, il était revenu d'entre les morts. Il n'avait aucune intention d'infliger à nouveau une telle douleur à sa famille. Sandy était enceinte. Il devrait faire quelque chose. L'idée de la grossesse de Sandy était étrange. Elle flottait au-dessus de lui, il pouvait l'énoncer, il pouvait la répéter. Et pourtant, ces trois mots refusaient de prendre sens. Sandy était enceinte. Il devrait faire quelque chose. La police était partie. Ils avaient bouclé leur affaire peu après 1 h du matin. L'ordinateur n'était plus là. Son iPod, la console hipster de Ree. Certains cartons avaient également disparu de la cave, sans doute des vieux logiciels. Il ne savait pas. Il s'en fichait. Il avait signé le registre des pièces à conviction là où on lui avait demandé de signer. Et cela ne lui avait fait ni chaud ni froid. Il se demandait si l'enfant était lui. Il allait prendre lui et s'enfuir, se dit-il distraitement. Il y avait une petite boîte en métal au grenier, dissimulée derrière un épais morceau d'isolant qui contenait 2 fausses pièces d'identité et quelques 25 000 dollars en grosses coupures. La pile de billets était étonnamment mince, le coffret métallique à peine plus épais qu'un roman. Il savait que la police ne pouvait pas l'avoir découvert au cours de la fouille parce que ce genre de trouvaille aurait immédiatement donné lieu à une petite conversation. Il monterait au grenier, récupérerait la boîte, la glisserait dans sa mallette d'ordinateur. Il sortirait Reed de son lit, couperait ses longues boucles brunes et la coifferait d'une casquette de baseball rouge. Avec une salopette en jean et un polo bleu, elle ferait un très bon Charlie, qui voyagerait seule avec son père fraîchement rasé. Il faudrait qu'ils s'éclipsent par derrière pour éviter les journalistes, qu'ils escaladent la clôture. Il trouverait une voiture à quelques rues de là et la barboterait. La police s'attendrait à ce qu'ils se rendent à la gare du Sud, donc ils iraient plutôt à la gare Amstrak, le long de la 128. ils y garerait la première voiture volée et en piquerait une deuxième. La police surveillerait tous les trains en direction du sud parce que c'était ce que faisaient les gens, n'est-ce pas? Ils allaient vers le sud, vers New York par exemple, où il était plus facile à n'importe qui de se perdre. Ils fileraient donc plein nord, avec la deuxième voiture volée, jusqu'au Canada. Ils planqueraient Charlie dans le coffre, enfileraient une veste de sport, des lunettes épaisses à monture noire. Juste un homme d'affaires qui franchirait la frontière pour se rendre à la ZIC. Les douaniers avaient l'habitude. Ensuite, quand Rhee et lui seraient au Canada, ils disparaîtraient. C'était un pays immense, aux vastes étendues et aux forêts profondes. Il pourrait se trouver une petite ville où tout recommençait, loin de Max, loin des soupçons de la police de Boston. Lui pourrait choisir un nouveau nom, il prendrait un emploi, peut-être à l'épicerie. Il pourrait tenir des années, aussi longtemps qu'il ne retournerait pas sur un ordinateur. Sandy était enceinte. Il devrait faire quelque chose. Il ne voyait pas quoi. À bien y réfléchir, il ne pouvait pas s'enfuir, pas encore. Il fallait qu'il sauve Rhee. On en reviendrait toujours à elle. Seulement, c'était plus fort que lui, il voulait savoir ce qui était arrivé à Sandy. Et il voulait savoir pour leur bébé. Il lui semblait que depuis 48 heures, le destin lui avait coupé les pattes. Et voilà que par perversité, il lui faisait miroiter un espoir. Il pourrait être père. Ou alors Sandy le haïssait pour de bon, finalement. S'il ne pouvait pas s'enfuir, alors il lui fallait un ordinateur. En fait, il lui fallait son ordinateur et il lui fallait comprendre ce que Sandy avait fait au juste. Que lui avait appris le petit Ethan du haut de ses 13 ans? À sa connaissance, l'ordinateur familial était encore bien au chaud dans les locaux du Boston Daily. Mais comment le récupérer? Il pouvait emmener Rhee au bureau. La police le filerait cette fois-ci. Et sans doute deux ou trois journalistes aussi. Sa simple présence éveillerait les soupçons. Quel mari éploré réveille son enfant en pleine nuit deux soirs de suite pour aller au travail? Si les soupçons des enquêteurs devenaient assez forts, il risquait de jeter un œil aux ordinateurs du Boston Daily, surtout si Ethan Hastings leur en disait davantage. Qu'avait découvert Sandy? Quelle pièce du puzzle avait-elle assemblée sans jamais lui poser de questions sur le sujet? Elle aurait dû être en colère, hors d'elle, apeurée. Mais elle n'avait jamais rien dit. Avait-elle pris un amant à l'époque? Est-ce que ça se résumait à cela? Elle avait rencontré un amant, puis, étant tombée par hasard sur les fichiers informatiques, avait décidé de quitter Jason? Sauf qu'ensuite, elle avait découvert qu'elle était enceinte. De lui? D'un autre? Peut-être avait-elle essayé de rompre avec son amant? Peut-être que l'autre, furieux, avait pris des mesures de rétorsion? Ou peut-être que mercredi soir, armée des toutes nouvelles connaissances acquises auprès d'Ethan Hastings, Sandy avait découvert les fichiers de Jason sur l'ordinateur. Aussitôt, elle avait compris qu'elle portait l'enfant d'un monstre. Alors quoi? Elle avait fui dans la nuit sans même prendre son portefeuille ou une tenue de rechange? Décidé de sauver un enfant en abandonnant l'autre? Ça n'avait aucun sens. Ce qui le ramenait au seul autre homme qu'il connaissait dans la vie de Sandy, Ethan Hastings. Peut-être ce garçon avait-il cru entretenir une relation plus intime avec Sandy. Peut-être avait-elle essayé de le détromper. Après toutes ces heures passées avec elle pour l'aider à démasquer son mari, Ethan l'avait mal pris. Alors il était entré dans la maison au milieu de la nuit et... Le plus jeune tueur des États-Unis avait été condamné pour un double homicide perpétré à l'âge de 12 ans. Donc aux yeux de Jason, Ethan Hastings était assez vieux pour être un fou dangereux. Mais un meurtre soulevait des difficultés d'ordre pratique. Comment un garçon de 13 ans serait-il venu chez Jason? À vélo? À pied? Et comment un gamin aussi malingre qu'Ethan Hastings se serait-il débarrassé du cadavre d'une adulte? Il l'aurait traîné par les cheveux, balancé sur le guidon de son vélo. Jason s'assit au bar de la cuisine, pris de vertige. Il était fatigué, épuisé jusqu'au fond de l'âme. C'était dans ces moments-là qu'il devait faire attention. Parce que ses pensées risquaient de vagabonder et qu'il se retrouverait d'un seul coup dans une pièce où régnait en permanence une odeur de terre fraîchement retournée et de feuilles d'automne pourrissantes. Il sentirait des centaines de toiles d'araignées lui effleurer les joues et les cheveux. Puis il verrait la course effarée d'un gros corps noir velu ou de deux ou trois qui filaient sur ses tennis, sur son pantalon ou sur son épaule, cherchant désespérément à fuir. Parce qu'il fallait fuir. Il y avait dans le noir des choses bien pires que des araignées craintives et prises de panique. Il avait envie de penser à Jani, à la façon dont elle et elle seule l'avaient accueillie à son retour avec un énorme câlin. Il avait envie de se souvenir de ce qu'il ressentait lorsqu'assis par terre à côté d'elle, Il dessinait docilement des licornes pendant qu'elle discourait sur l'importance de la couleur violette ou des raisons pour lesquelles elle voulait vivre dans un château quand elle serait grande. Il avait envie de se rappeler le regard de Gianni lorsque, pour son 12e anniversaire, il avait économisé tout son argent pour l'emmener faire une journée de balade à cheval, puisque leur famille n'était pas de celles qui pourraient s'offrir un poney un jour. Et il avait envie de croire qu'au matin de son 18e anniversaire, quand elle s'était réveillée pour découvrir la chambre de son frère à nouveau vide, elle n'avait pas pleuré et qu'il ne lui avait pas manqué. Qu'il n'avait pas, pour la seconde fois, brisé le cœur de sa petite sœur. Parce qu'il faisait une expérience très instructive ces jours-ci. Il apprenait que la famille d'un disparu traverse à sa façon une épreuve aussi épouvantable que le disparu. Il apprenait que vivre avec tant de questions est plus difficile qu'être celui qui connaît toutes les réponses. Et il apprenait qu'au fond de lui-même, il était terrifié à l'idée que le Burgerman soit encore bien en vie. D'une manière ou d'une autre, le monstre de son enfance était revenu lui prendre sa famille. Jason fit les 100 pas encore 10 minutes, ou peut-être 20 ou 30. Le tic-tac de l'horloge le rapprochait à chaque instant d'un nouveau matin sans sa femme. Max allait revenir, la police aussi, et d'autres journalistes, les émissions du câble maintenant, des présentatrices de la cabine de Greta Van Susteren ou Nancy Grace, qui exerceraient leur propre forme de pression, une belle épouse disparue depuis des jours, le ténébreux et mystérieux mari au passé trouble. Ils étaleraient sa vie au grand jour, et quelque part, en Géorgie, certaines personnes feraient des rapprochements et passeraient quelques coups de fil. Et là, Max et la police auraient vraiment des armes pour lui enlever sa fille. Combien de temps lui restait-il? Jusqu'à midi? 14 heures? Peut-être qu'on révélerait la nouvelle juste à temps pour les gros titres de l'édition de 17 heures? Ça ferait de grosses audiences. Un présentateur verrait son étoile monter au firmament. Quant à Jason, comment, au nom du ciel, pourrait-il dire au revoir à sa fille? Pire, qu'arriverait-il à celle-ci? Alors que sa mère avait disparu, on l'arracherait au seul père qu'elle avait jamais connu. Papa, papa, papa. Il fallait qu'il réfléchisse, qu'il agisse. Sandy était enceinte. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il n'avait pas accès à son ordinateur, il ne pouvait pas interroger Ethan Hastings, il ne pouvait pas fuir. Que faire, que faire? L'idée lui vint peu après 2 heures du matin, son dernier recours. Cela supposait de quitter sa fille qui dormait seule à l'étage. En 4 ans, il n'avait jamais fait une chose pareille. Et si elle se réveillait? Si elle trouvait la maison une nouvelle fois déserte et poussait des hurlements hystériques? Et s'il y avait quelqu'un d'autre dehors, quelqu'un qui rôdait dans l'ombre, attendant la première erreur de Jason pour fondre sur lui et l'emporter? Elle en savait davantage sur la soirée de mercredi. Didi en était persuadé, lui aussi. Si quelqu'un avait kidnappé Sandy et si ce quelqu'un savait que lui l'avait vu. Didi avait juré que la police surveillait sa maison. Promesse ou menace? Il voulut croire qu'il y avait un peu des deux. Jason monta au premier, passa un jean et un pull noir. Il marqua un arrêt devant la porte de lui, guettant le moindre mouvement. Puis, perturbé par le silence, il ne put s'empêcher d'entrouvrir la porte pour s'assurer que sa petite fille était toujours en vie. Elle dormait, roulée en boule, un bras rejeté sur le visage, Mr. Smith blotti au creux de ses genoux. Et Jason se souvint alors très distinctement de l'instant où il l'avait vue venir au monde. Toute ridée, petite et bleue, ses poings qui battaient l'air, la moue boudeuse de sa bouche vagissante, l'amour fou qu'il avait instantanément ressenti pour chaque centimètre d'elle, sa fille, son seul miracle. « Tu es à moi, » murmura-t-il. Sandy était enceinte. Je te protégerai. Sandy était enceinte. Je vous protégerai tous. Il laissa sa fille et descendit la rue au petit trot.